Hey, bonsoir tout le monde et bienvenue au 12e épisode de Divan Quest. Divan Quest, à ne pas confondre avec Diane Quest. Cette actrice n'est accréditée que pour un seul rôle dans le film The Quiet en 2005 pour son interprétation d'une lectrice de nouvelles.
Hey, je m'en rappelle.
On confondra pas. On confondra.
Voilà. Ben, dans les deux cas, anyway, personne n'a la moindre idée de qui on est.
Ah, voilà. C'est bon.
Alors, je suis Mathieu Bonnet, toujours en compagnie de Danny Gravel.
Salut.
Et de Jean-François Laporte.
Salut.
Alors, qu'est-ce que vous avez fait de beau cette semaine, mes bons petits gars? Hein, Dan?
Moi, ça? Retour au travail, hein? Les vacances étaient finies. Puis
c'est
j'avais
pour
un
ça, l'hésitation.
Ouais, c'est ça. Puis j'avais du retard à rattraper dans un cours d'université. Fait que pas grand-chose, sais-tu? Mon temps a été limité. Fait que j'ai joué à Hearthstone sur mon cellulaire, hein, maintenant que mon cellulaire peut le runner sans comme planter, ce qui est agréable. J'ai aussi, dans le même domaine, essayé Star Wars Galaxy of Heroes. Quand même intéressant.
Qui est le jeu mobile RPGS.
Ouais,
ça?
RPGS, que, comme un peu tour par tour avec des équipes qui viennent de partout dans l'univers de Star Wars. Là.
Sure.
Fait quand même assez intéressant. Je dirais, là, c'est un free-to-play avec le principe de l'énergie. Mais contrairement à tous les free-to-play avec l'énergie que j'ai joué, je me suis généralement tanné avant de manquer d'énergie. Hein? Parce qu'il t'en donne en bonus comme à côté à chaque fois que tu fais un level ou quelque chose. Fait que pour vrai, là, quand j'avais plus d'énergie, c'est parce que tu peux aussi mettons, faire des missions en vitesse accélérée, là, en instantané. Puis ça prend aussi de l'énergie. Puis c'est la seule moment où je manquais d'énergie parce que je scrapais tout ce qui me restait avant de faire bon, je suis allé jouer. Quand même, tu sais, comparé à d'autres, bien intéressant là-dessus pour le free-to-play. Par contre, je dirais que c'est devenu rapidement très, très, très répétitif. Là. Puis même si j'avais une team quand même intéressante avec Chewie, Ahsoka, Mace Windu, un petit Jawa, un petit Jedi pas de nom qui heal, j'ai fini comme par abandonner parce que à un moment donné, c'est plus répétitif que à peu près tous les RPG auxquels j'ai joué.
Ce qui est pas une super bonne réputation.
Non. C'est drôle à peu près. Comme ça a été le fun de deux jours. Tu sais, pour un jeu gratuit, mais on se tanne. Puis sinon, je dirais que c'est pas mal ça. Ma blonde s'est ouvert un compte Steam, finalement. Je pense que la Steam Link l'a comme semi-intéressé. Puis elle s'est achetée Broken Age.
Nice.
J'ai même pas encore pu voir le jeu parce qu'elle est dessus tout le temps. Puis elle joue pas sur la Steam Link finalement là, parce que c'est mieux touch. Là. Elle joue sur son ordi qui a un écran touch. Mais en tout cas, ça doit être bon parce qu'hier, elle a passé une partie de la soirée à me jouer d'en face.
Le fan de jeux d'aventure en moi est très content d'apprendre ça.
Ouais, ben c'est un peu le genre de jeu que je savais qu'elle aimerait. Puis l'image rétro, elle aimerait pas. T'sais, fait qu'elle est allée vers ça.
Très beau style visuel. Fait que
moi, ça a l'air
attrayant.
Puis les voice actors ont l'air vraiment awesome.
Oui,
j'en connais quelques-uns.
Elijah Wood qui fait le personnage principal.
Oui, c'est vrai.
Ouais.
Ouais, j'ai vu passer Jack Black. J'ai-tu vu passer.
Ouais, il fait pas un gros rôle par contre.
En tout cas, mais un paquet de
monde. Monsieur Black.
Monsieur Black. Fait que pour moi, c'est pas mal ça de mon côté. Je finis avec mon petit segment, par exemple, de fin de ce que vous avez sacré cette semaine.
Monsieur Justin J.P. Trudeau.
Just watch me.
Donc, notre ami Justin, hein, maintenant 9 promesses de réaliser.
Le level up, c'est à cause de ses promesses ou à cause des bas du Canadien qu'il portait quand il s'est fait donner un chandail des Maple Leafs à Toronto?
Un peu les deux. ma promesse préférée à date, c'est ne pas utiliser la prorogation pour échapper à des situations périlleuses. Hein, pour ceux qui auraient oublié ce beau mot-là, c'est un mot qu'on a découvert au Canada il y a quelques années sous Harper. Hein. Le mot prorogation veut dire suspendre une assemblée, comme le Parlement par exemple, puis remettre à plus tard les débats. Comme ça, on arrête puis on en reparle plus tard, genre après le congé des fêtes.
Ou pas. Donc,
ou pas. Puis comme ça, on oublie avec la naine puis le ragoût. Quand même impressionnant que ce soit rendu une promesse électorale hein, de ne pas utiliser cette méthode-là, mais voilà.
Ouais,
ça dit ce que ça dit.
Donc, c'est pas une promesse qui va tenir, c'est une promesse qui est seulement brisée.
Ben non, mais elle est tenue parce qu'il l'a pas fait dans le temps des fêtes.
Ouais, c'est ça.
Il l'a pas fait encore, je disais, il va avoir la
une promesse de ne rien faire. Ouais, il y a ça.
Ouais, par exemple. Elle pourrait retomber dans la deuxième catégorie plus tard.
Mais y a-tu une occasion qui aurait pu utiliser une prorogation récemment?
Ouais, je sais pas. Là, écoute, j'imagine qu'avant le temps des fêtes, avec les trucs sur les réfugiés et tout ça, là, il aurait pu faire « On n'a pas le plus bail! »
Okay.
J'imagine.
All right.
Écoute, je me fie au site Trudeau Maître. Là, puis le gars qui suit ça, généralement, est assez fiable.
Okay.
Je continue. Par contre, maintenant, 4 promesses de briser. dans le fond, une des promesses que j'ai relevées, c'est... la dernière fois, j'ai parlé des promesses qui avaient été suivies, là, qui étaient de baisser les impôts de la classe moyenne, de rajouter un palier d'imposition pour ceux qui gagnent en haut de 200 000. Mm-hmm. Ça devait se faire à coup nul, donc se balancer. Puis ça se balance pas, finalement. Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire? Attends, dans le fond, est-ce qu'on peut vraiment blâmer les riches d'avoir plein de mesures d'évitement fiscal, ce qui font que même si on les impose plus, ils payent pas plus d'impôts?
Hein? Ah, ouais.
Voilà.
Ben bon, c'est...
éditorial.
Mais le problème est ailleurs.
Ouais, c'est pas sa faute, au moins.
Ben, tu sais.
Ouais,
c'était prévisible, mais
c'est pas le fort qui compte.
Bon, assez parlé de politique, ben, là, je pense que...
Matt!
Fait que, hey, pour une fois, calique, dans ma... dans mon... ben, je dirais dans mon année, j'ai eu le temps de gamer depuis le dernier pod. Oui, oui, je sais que c'est le début de l'année, là, c'est correct. J'ai eu le temps de gamer un peu, j'ai eu une semaine tranquille la semaine dernière, fait que puis j'étais dans un petit mood point and click, et considérant ma panoplie d'achat de la vente Steam, ben j'ai eu le temps de jouer un petit peu, ce qui est... ben beaucoup même. Je me suis claqué le premier épisode de la série Blues and Bullets, qui est une nouvelle série point and click épisodique, là, qui suit beaucoup le format de Telltale Games. C'est ça, mais qui a vraiment une ambiance très très distincte. C'est un noir avec des éléments d'occulte, puis avec un style visuel très très frappant. J'ai hâte à la suite, puis peut-être que si le jeu développe bien, ben j'en parlerai dans un épisode.
Le noir, c'est le style ou c'est le personnage principal?
Le style. Okay. On parle de détective.
Ça s'appelle quand même Blues 40. And Bullets.
There you go. Ah, évidemment. et j'ai joué à Hacknet, qu'on avait brièvement parlé pendant l'épisode Shadowrun. Ben, l'épisode, Cyberpunk, mais je me mélange tout le temps à cause du segment à Danny. Bref, c'est ça, c'est un jeu qui repose strictement sur des mécaniques de hacking, que t'es derrière un écran, puis qui se veut, genre, tu es le hacker dans le jeu.
Ça s'appelle les commandes Unix, right?
Un mix de Unix et de Commandos. Mais plus, ouais, partout ce qu'il peut sans que ce soit HLM, mais du Unix. Puis, mais je m'attendais à ce que ce soit un jeu procédural, puis c'est vraiment pas le cas. Parce que, okay, tu sais, Uplink, mettons, était très très procédural, parce que toutes les missions étaient générées au hasard, puis tant pis, dans le tas. Là, toutes les missions sont écrites. Ce qui fait que ça bâtit du lore en malade, parce que chaque ordi que tu hack a vraiment un lien avec la personne, puis la mission que tu fais. Fait que t'as des logs de chat d'un ado qui essaie d'impressionner une fille, puis des trucs comme ça. Fait que c'est
toujours très pertinent.
Ouais, c'est ça, mais ça fait que le monde est hyper cohésif. T'as même un gars qui veut. L'un des premiers jobs de hacking que t'as à faire, c'est un gars qui est accro à un clicking game. Tu sais, là, comme Cookie Clicker pis tout ça, là. Mmh. Que, bon, on parlait, là, que t'engages des grands-mères pis tout ça, là, toi. Pis le gars, il a comme... on en parlera une autre fois.
OK.
Ah, le pire, c'est que c'est un segment que j'ai coupé au podcast. Fait qu'on en a parlé ici, à la table, là, ça s'est pas rendu, parce que c'était crissement impertinent. Anyway, le gars est accro à un clicking game, qui est un jeu où tu cliques, puis là, tu peux acheter des affaires de cliquage automatique, fait que ça clique plus vite, mais tu continues quand même à cliquer, puis là, tu dois acheter comme des levels, puis bref, c'est un jeu excessivement passif. Mais le gars, il a joué un jeu comme ça, puis il l'a maxé, il a comme tout débarré, puis il est comme... J'aimerais dire que tu peux pas resetter ton compte. Est-ce que tu peux aller me le hacker pour le resetter? Mais tu peux aller jouer au Chris de jeu. Il y a okay, des ouais. Achievements Steam si tu joues. Fait que c'est pas mal le fun. Mais ça, toutes les missions sont vraiment scriptées. Fait que c'est beaucoup plus immersif comme jeu de hacking. Puis ça va leur permettre de créer des moments très, très cool. Ensuite, j'ai fait Thomas Was Alone, qui est un jeu que je connaissais bien par sa réputation, de par le créateur qui a fait Volume, que j'ai parlé dans notre épisode 2, je crois, de Divan Quest. Bref, j'ai fait le premier jeu de ce créateur-là, Thomas Was Alone, aussi plaisant que tout le monde en parle. Et tout ça, ben, ça a été fait évidemment sur la Steam Link, parce que c'est donc bien confortable de gamer sur mon divan. Puis j'ai mis le site web de Divan Quest en ligne.
Ouais!
Merci, merci. Fait que vous pouvez aller faire un tour là pour aucune bonne raison, parce que si vous écoutez déjà le show, il n'y a pas vraiment grand-chose pour vous autres, à part saigner un petit bout de mon sous-sol où est-ce qu'on enregistre le pod.
Et Megaman.
Et Megaman. Et voilà, il y a un ami bout de Megaman qui traîne. Pourquoi pas? Fait que c'est ça pour moi, Jeff.
Ouais, écoute, le vendredi soir, on a eu avec les collègues du travail, on a eu une soirée de gaming plutôt arrosée. donc, on s'est sorti la Wii pour jouer à Mario Kart. Et,
hein?
Oui, oui.
T'as bien compris. on jouait à Mario Kart, on a testé Helldivers.
Yes.
Qui est vraiment une mauvaise idée jouer à ce jeu-là okay. Quand tout le monde est sous. Il y a du Friendly Fire dans le jeu, donc...
pour le bienfait.
As-tu encore des amis? Ou
ouais, ça peut trop pire. Mais je serais à faire un shout-out, par exemple, aux ailes de poulet pas mangeables. Je suis président.
Mais pour le bienfait de nos auditeurs, qu'est-ce qu'Helldiver?
Helldiver, qui est un Twin Stick Shooters, mm-hmm. mais avec bon, plein d'autres options, mais complètement co-op, qui peut jouer à 4. Vu d'en haut, là, comme top-down, c'est super intéressant. Pas super cher, je pense que c'est comme une quarantaine de dollars. C'est un jeu quand même complet. Hein,
pour, même pas, je pense.
Parce que la version physique,
ah, okay.
C'est le prix qu'on avait okay. payé. Mais super intéressant, ça avait l'air d'un bon jeu. Faudrait que j'y rejoue avec tous mes esprits, peut-être que ce serait plus clair. Sinon, ben, j'ai fini par... je suis tout le temps en retard. Je suis tout le temps comme un podcast en retard de vous autres, mais j'ai fini par suivre dans avec un Steam Link.
Mais c'est correct qu'on a des subventions à cause de ça.
On avait dit qu'on avait fini avec les gags politiques.
Non, c'est ça. Donc, je me suis comme j'étais procuré Ori and the Blind Forest dans le
Steam Sale.
Dans le Steam Sale pour dans le temps des fêtes. Mm-hmm. J'ai pu le jouer sur mon Steam Link. Le jeu est totalement à la hauteur de ce qu'on en disait.
Ah, sur une télé, ça doit être comme encore plus vraiment malade. Là.
Non, moi, je l'ai fait en Xbox One. Donc
sur une télé.
Sure.
Puis j'ai remarqué dans le jeu-là en me disant comment il paraît que l'intro c'est comme super touchant, un petit peu comme dans Hop, là, le film, puis finalement, c'est ça. ça l'est quand même pas mal.
Est-ce que tu l'as complété le jeu ou...
Non, j'ai peut-être joué 20% du jeu peut-être. Là. J'ai pas joué beaucoup.
Donc t'as pas vu une autre cutscene encore?
Non, pas encore.
Parce que toutes les cutscenes sont aussi touchantes.
Ben,
c'est sans arrêt.
À suivre. j'ai commencé une télésérie en fait, c'est cette année. C'est ou un petit peu avant Noël, ça a commencé. Là. C'est la première fois depuis très longtemps que Sci-Fi Channel avait un nouveau programme original sur sa chaîne, depuis genre Battlestar Galactica en 2006, quelque chose comme ça. Et c'est The Expanse.
Qui est l'histoire d'un gars qui mange beaucoup de dinde dans le temps des fêtes.
Non, l'histoire d'un gars qui dépense tout à payer.
The Expensive.
Ça serait des super beaux sujets, mais non, c'est...
mais ça, c'est juste la version Télé-Québec.
Ouais,
ça,
c'est... Non, c'est une sorte d'histoire de guerre froide entre la Terre, Mars, puis les gens qui habitent dans la ceinture d'astéroïdes. Tout ça autour de la dinde. Il y a pas beaucoup de dinde sur Mars.
La ceinture de dinde.
J'ai des images dans ma tête, ça me fait rire.
Mais non, mais... sérieusement, c'est vraiment excellent.
Faut pas dire sérieusement dans ce podcast.
Non, je sais. OK, ben moins sérieusement, c'est c'est vraiment excellent. Parce qu'il y a des fans de shows de sci-fi, ben c'est excellent. Je peux te dire là?
Oui.
OK. Ben, c'est vraiment un excellent TV show. Allez-y, écoutez ça. Ben, encouragez, ça vaut la peine. Si on veut en avoir plus qu'une saison. S'il vous plaît. Sinon...
S'il vous plaît.
Come on, guys. Come on.
Non, mais il y a comme juste 5 épisodes de sortie jusqu'à maintenant. Fait que... Mm-hmm. C'est un volon à rattraper.
Ça me prendrait la télé hein, pour ça.
Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pas commenté. Mais bon.
Ouais.
C'est pour ça que je fais des gags d'occupation.
Non, ça se rend pas chez nous, Vidéotron.
Ben, j'ai la télé, je l'écoute pas sa télé.
Alors, on est de retour.
Alors, on est de retour. Je me suis passé comme. Quelqu'un a pris le contrôle des ondes. Oui, des ondes.
Des internets.
Des internets.
Fait quoi à part de ça?
Oui, sinon, ben, en passant, une petite mention, Her Story que j'ai parlé la semaine, deux semaines, en fait, ce dernier podcast, qui est disponible dans le Humble Bundle de cette semaine, dans un Humble Bundle de FMV, dans tous des jeux qui ont des full motion videos.
Qui va toujours être en vigueur à la sortie du podcast, donc oui, cette semaine.
Et ouais. 5$ pour avoir...
Au minimum,
5$ pour pouvoir avoir Her Story. Et sinon, j'ai eu une expérience intéressante cette semaine, ben, durant la semaine de gaming. J'ai eu ma première vraie expérience de gaming père-fils.
OK, on n'est pas psychologue, on peut pas vraiment t'aider avec ça.
Non, mais c'est pas grave, c'est quand même intéressant.
OK.
Donc, je jouais à GTA V. Mm-hmm. oui, c'est...
Est-ce que tu nous rappelles l'âge de ton fils?
Il y a 3 ans. Mais en fait, il a vraiment ça de me regarder jouer parce que je peux conduire des gros camions puis faire des accidents. Fait qu'il trouve ça vraiment drôle de regarder des gros camions faire des accidents. Et ben, j'ai donné la manette et j'ai montré les boutons. Puis c'est vraiment surprenant comment à 3 ans, ça comprend vite. Il conduisait le gros camion
en rond,
mais il faisait des accidents. Il se pleurait de rire.
Est-ce qu'il est-ce qu'il, déjà à son âge, était capable d'arrêter, ramasser les prostituées, partir avec, les battre?
Oh non, non, on était pas dans un quartier. Ah, okay. Parce que sinon, ça m'aurait fait peur. Il y aurait peut-être plus.
Il connaît pas encore ses coins. Là.
Non, c'est ça. Donc, on attend vos lawsuits à dimanche.com.
Ah, est-ce que je pense que la DPJ cogne à la porte? Alors, cette semaine, lors du Consumer Electronics Show, ou CES, la semaine dernière à Las Vegas, la compagnie Sphero, les créateurs du jouet Star Wars le plus convoité de 2015, le fameux petit droïde rond BB-8, pouvant être contrôlé par une app sur votre smartphone, ont annoncé du nouveau pour ce produit. Ils offriront bientôt un bracelet permettant de le contrôler. L'accessoire, à travers une série d'accéléromètres et de gyroscopes, pourra détecter vos actions et le droïde réagira de façon appropriée. Le concepteur a laissé entendre que vous pourriez force-choquer, c'est-à-dire étrangler à distance avec la force comme Darth Vader pour ceux qui sont moins connaissants de Star Wars. C'est ça, vous pouvez force-choquer le petit droïde, entre autres actions spéciales à découvrir.
Mais même les pires sites ne feraient pas ça.
Ben, j'ai l'impression qu'après une couple de fois avoir le petit droïde faire des allers-retours de façon inquiétante, on va voir d'un tout autre œil l'utilisation de l'expression se force-choquer le petit droïde. Également, dans l'actualité.
J'y avais juste capable.
Cette semaine, Mumbai est devenu un phare de culture, une lumière dans les ténèbres des temps modernes. Et oui, Mumbai a annoncé 15 endroits, principalement des lieux touristiques, où il est maintenant interdit de prendre des selfies. qu'est-ce qui pourrait pousser une ville... Merci. Oui, je suis Mumbai, fait que je dis merci. Qu'est-ce qui pourrait pousser une ville à prendre une mesure du genre? Malheureusement, ce n'est pas seulement une écœurantite profonde de la masturbation photographique ou même un désir de construire un monde meilleur. La semaine dernière, une jeune femme âgée de 18 ans, en essayant de prendre une photo d'elle et de ses deux amis, est tombée à l'eau et est morte noyée.
Wow.
L'année dernière, une touriste, c'était pas spécifié dans l'article. Un touriste, pardon.
Sous le poids de son égo.
L'année d'avant. L'année d'avant, un touriste japonais est mort devant le Taj Mahal en tentant de prendre également un égo portrait et a perdu pied dans les marches et est décédé en rendant un hommage funeste au Slinky. Ce qui semblait être une bonne nouvelle n'est finalement qu'un autre exemple de figure d'autorité qui sentent le besoin de protéger les gens de leur propre stupidité et en se faisant empêche la sélection naturelle de naturel sélectionner. Voilà. Alors, et oui, croyez-le ou non, en 2016, on a quand même toujours droit à... La version PC de Metal Gear Online débutait sa phase de bêta ouvert à tous le 12 janvier. Et on apprenait le 13 janvier que le bêta était fermé. Pensez-vous vraiment que Konami allait arrêter de faire la manchette maintenant que Kojima était parti? Ben non!
Ben non!
Joke à part, il n'y a rien d'alarmant. Là. Les développeurs auraient découvert une faille de sécurité puis voulaient régler la situation avant que ça cause du trouble. Probablement de retour en ligne au moment où le podcast va sortir. Mais bon, hein? Peut pas manquer une chance de même.
Ben, c'est clair que non.
On apprenait aujourd'hui, sur les petits liens gossants trending en haut à droite quand tu es sur Facebook, que le CEO de la compagnie Hootsuite, compagnie dont je viens de comprendre le jeu de mots en lisant le nom en voix haute, offre des bureaux debout pour 25 $ américains. Ce type de produit ayant beaucoup gagné en popularité dans les dernières années, il est à prévoir de voir une course vers le bas pour avoir des produits plus abordables. Mais 25 $?
25 $.
En lisant l'article, on découvre qu'il s'agit d'une fucking boîte en carton pliable qui donne comme deux espèces de marches qu'on peut placer sur notre bureau et ainsi travailler debout. Ben, quelle merveille de design! Hein,
attention aux dégâts de café.
Du beau carton.
Ben, ça va faire plaisir autant au monde qui n'ont pas une scène qu'au Webster. Il y a une certaine intersection.
C'est le diagramme de Venn.
On attend avec impatience la version crête de lait qui a l'avantage de également pouvoir contenir des vinyles.
Ben oui, c'est pratique.
Voilà. Et finalement, la maison française de maroquinerie de luxe, plus connue par la plupart d'entre nous comme cette compagnie qui fait des sacoches crissement chères que tout le monde achète des copies cheap à la place, je parle ici de Louis Vuitton, a engagé un porte-parole virtuel. Je devrais dire une porte-parole virtuelle. Qui de mieux pour parader ses produits qu'un personnage de jeu vidéo? On parle ici de Lightning, la protagoniste principale de Final Fantasy XIII. Certains diront...
Oui, c'est vrai, j'ai vu passer ça.
Mais certains diront, pas de quoi en faire une histoire, là.
J'avais comme oublié aussi, hein.
C'était peut-être aussi bien.
Et voilà.
Ouais, ça. Fait qu'il y en a qui diront qu'il n'y a pas de quoi en faire une histoire, là. On va voir sa face 3-4 posters en train de poser avec une sacoche, puis c'est pas mal ça. Mais, c'est certains auront tort. Ils pourront bien aller chier du même coup. J'en ai bien assez des deux ticounes assis à mes côtés pour m'interrompre pendant que je lis mes chroniques, sans avoir, en plus, la contribution de personnes hypothétiques de ma propre invention. Bon. Alors non, ils ne se sont pas contentés de quelques affiches. On peut trouver en exclusivité sur le site d'actualité britannique Telegraph rien de moins qu'une entrevue avec Lightning. Elle discute du privilège que c'est pour elle, de comment elle se sent face aux créations du designer de Louis Vuitton, sans bien sûr ne pas oublier de faire quelques métaphores à chier du genre « ça m'a frappé comme un éclair
oh. ».
Quelques phrases cryptiques vers la fin de l'article laissent présager un rôle pour le personnage dans le remake de Final Fantasy VII, qui est attendu dans les 10 ou 20 prochaines années. Là. Fait que si Lightning apparaît dans Final Fantasy VII, peut-être que Cloud pourra se trouver une job de porte-parole lui-même comme pour une compagnie d'adhésifs industriels, étant bien sûr la seule chose capable de tenir ses cheveux en place, mais surtout étant la seule chose que, lorsqu'inhalé, permet de comprendre l'histoire de Final Fantasy VII.
Ah, c'est pas fou. Je pensais que t'allais dire que la fille... Il y a peut-être un rôle pour la sacoche dans le prochain Final Fantasy aussi.
Ah, ça aurait été bon. Pas de nouveautés cette semaine?
Pas de nouveautés, on reprend du vieux stock. Donc, oui, mais cette semaine, j'ai texté avec un astronaute. C'est, ça, ça a résumé mes activités principales de gaming cette semaine.
Bon, c'est une référence à David Bowie?
Ah. Non, ça aurait été clever. Ça aurait été clever, mais malheureusement, non.
Mais malheureusement, il ne l'est pas.
Donc, non, en fait, j'ai joué cette semaine à un jeu qui s'appelle Lifeline. Lifeline, qui est un jeu qui a été produit par 3 Minutes Games et écrit par Dave Justice, qui est reconnu en fait pour son écriture du jeu The Wolf Among Us.
Oh, cool.
Oui, donc.
Jeu d'aventure.
Jeu d'aventure. En fait, c'est un des premiers jeux. En fait, c'est sur iOS, c'est sur Android. C'est un des premiers jeux avec une compatibilité pour la Apple Watch. En fait. Donc, nice to have, I guess. Je sais pas combien de personnes vont le jouer sur Apple Watch, mais le jeu est compatible sur Apple Watch.
C'est quoi de mieux que jouer sur un écran d'un pouce et quart?
Mais le jeu se joue bien sur un écran d'un pouce et quart et okay. J'y viens un instant. Danny.
Mon Dieu, c'est qu'on descendait.
Ouais, quand même. Notre calling.
Donc, la prémisse du jeu est fort simple. C'est un astronaute, Taylor, de son nom, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, mais qui est perdu sur une lune, pas la nôtre, une lune lointaine dans Tau Ceteri, c'est ça? Et son seul moyen de contact, il a trouvé une petite machine pour communiquer qui a pu se fabriquer lui-même avec des restants de son vaisseau. Et le seul numéro qu'il a réussi à rejoindre dans tout l'univers, c'est mon numéro de téléphone cellulaire.
C'est l'histoire d'un astronaute qui texte un dude sur la bol parce que c'est clairement le seul temps que tu joues à un jeu.
Pas sur la bol, en fait. Puis tu vas comprendre pourquoi.
Le pouvoir est
Donc, le jeu se joue à travers, pas des vrais SMS, mais à travers des messages d'un équivalent qui ressemble à un SMS et utilise les notifications du téléphone. Donc, le jeu ne se joue pas tout d'un coup. On doit attendre que Taylor nous réponde ou nous parle, puis que c'est lui qui nous écrit.
Faut attendre que lui aille sa bol pour te texter.
Exactement.
Sa bol spatiale.
Sa bol spatiale.
Oui. Donc, puis la façon que Space le jeu ball. Est fait... Donc, la façon que le jeu est construit, c'est qu'on a. C'est carrément Taylor qui nous écrit, puis qui nous décrit sa situation, il nous écrit qu'est-ce qu'il voit, son histoire, et il nous demande toujours qu'est-ce que je fais, si tu fasses le choix A ou le choix B, il nous donne deux choix, on lui donne un choix, puis il va aller faire l'action qu'on lui demande, ça peut lui prendre un certain temps. Puis c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on doit attendre ce temps-là. Donc, si c'est la nuit, puis il dit, je pense que je vais me coucher pour la nuit, ben s'il dort 8 heures, ben le jeu arrête pendant 8 heures. Puis 8 heures plus tard, on reçoit des notifications. Ok, ben, je viens de me réveiller, puis il s'est passé ça, puis je me sens comme ça.
J'ai rêvé à toi.
Puis il nous répond, ben, peut-être.
C'est le fun d'avoir une relation virtuelle avec un astronaute.
Il y a un dude au Japon qui s'est marié avec la fille du jeu, on en a parlé l'autre fois.
Jeff en a parlé.
Mais tu ris. Mais ça finit par filer comme ça, puis c'est ça qui est vraiment intéressant dans le jeu. Là. Évidemment, c'est un jeu qui est vraiment inspiré un peu comme les Choose Your Own Adventure, qui est un peu comme une histoire dont les héros, on se rappellera de ces livres-là qu'on jouait dans notre tendre adolescence.
Hashtag Fucking Jeff.
Et voilà.
Jeff. Mais via message texte, en fait. Puis entre les étapes, mais il suffit juste
d'attendre 8 heures.
Exactement. Mais pas tout le temps. Des fois, on va lui demander, il y avait une situation où il y avait une porte fermée, mais je dis, défonce la porte. Ça, il a pris comme 20 minutes pour ouvrir la porte. 20 minutes plus tard, il dit, OK, j'ai réussi. Ben, il te répond, puis tu as un autre choix qui revient, puis tu peux continuer. L'écriture, tous les textes de Taylor, c'est top-notch, c'est clever, c'est drôle, c'est sarcastique à souhait. si tu lui demandes de faire des actions qui sont plus ou moins sensées, il te le dit que ça n'a pas de sens que tu lui demandes, puis il te répond. Des fois, il refuse de le faire.
Ah,
okay. C'est vraiment bien écrit, puis la narration, en fait, parce qu'il se parle tout seul, en fait. C'est vraiment, vraiment bien fait. C'est à la hauteur de l'écriture, finalement. C'est la part de Dave Justice dans Lifeline. Le plus intéressant de tout ça, je pense, c'est mon expérience, comment moi j'ai vécu jouer à ce jeu-là. Je savais pas comment attendre, je savais que c'était un jeu qui jouait avec les notifications. Je pensais que c'est un jeu que j'aurais pu jouer en quelques heures, lundi matin, puis on passe à autre chose. Mais non. Donc après 4 minutes de jeu, je me rends compte qu'il me dit je reviens tantôt. Puis là, ça dit Taylor is busy, puis je peux plus jouer. Fait que là, tout au courant de la journée, toute la semaine, en fait, jusqu'à hier, j'ai échangé avec Taylor. Qui est sur une lune ailleurs dans l'univers, puis j'ai essayé de lui permettre de survivre, parce qu'il m'a donné des conseils, mais j'ai essayé de le guider à travers tout ça.
Mais où est Major Tom quand on a besoin de lui? Hein,
ouais, c'est ça.
Et c'est...
Ouais, c'était,
c'est touchant.
Il était là l'hommage.
Il était là l'hommage. Tu m'as fait perdre le fil de mon idée.
Ah, le fil, Lifeline, bouh!
OK, ça c'est un bon segue. N'importe quoi pour me rappeler où je t'ai rendu.
C'est trop bien décousu, cette situation-là.
Non, mais sérieusement, Donc, à travers tout son texte, souvent, il va nous poser des questions. Souvent, il va l'astronaute à qui on parle n'est pas un véritable astronaute. En fait, c'est un stagiaire botaniste ou quelque chose comme ça qui faisait des études sur le vaisseau et il n'est pas équipé pour survivre tout seul sur une lune. On n'est pas dans The Martian ici. On est vraiment totalement à l'opposé. Mais souvent, il va avoir des questions qu'il va nous poser, qu'il va nous donner des instruments. Puis, ça vient briser un petit peu le fourth wall. Ça va nous chercher à chercher de la vraie information pour pouvoir y répondre. Comme par exemple, à un moment donné, il cherche un endroit pour dormir, puis il veut pas mourir de froid. Fait qu'il dit, mais il y a toujours le réacteur du vaisseau, je pense qu'il est encore allumé, mais le shield est brisé, puis il y a beaucoup de radiation. Fait que puis mon armure, elle me dit qu'il y a 150 rads de radiation. Je sais pas si je peux y aller, là. C'est peut-être dangereux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'sais? Fait que moi, je suis allé sur Google, j'ai googlé 150 rads de radiation. Puis sur Google, ça dit que 150 rads, on peut le tolérer, on peut avoir un petit mal de tête, mais c'est tout si on reste pas trop longtemps. C'est juste 300 rads qui est mortel pour l'être humain. Donc, dans mes choix, j'ai assez de te faire une tente ou va te coller sur le réacteur. Mais va te coller sur le réacteur. T'sais. Mais le but du jeu, finalement, c'est de faire survivre Taylor. Puis il y a une fin, il y a plusieurs fins au jeu, évidemment. Il y a une fin où il survit. Il y a des secours qui viennent le chercher, puis il va réussir à partir. Je sais qu'il y a des histoires d'extraterrestres, qu'il y a plein de choses qui se mêlent à cette histoire-là. Je n'ai pas rencontré tous ces éléments parce que, par peut-être méchanceté ou masochisme, j'ai fait faire des choix plus ou moins judicieux à Taylor au courant de la semaine.
Un peu à l'instar de ta propre vie.
et malheureusement, Taylor est mort de froid pendant une nuit. Et il m'a un petit message touchant comme quoi ben c'était son dernier message puis qu'il sentait pas fort puis qu'il pensait que c'était la fin puis qu'il allait pas he's not gonna make it.
C'est pas drôle, il est mort. C'est mort.
Pac-Man aussi.
Évidemment, quand on meurt dans le jeu, on a l'occasion de rejouer le jeu. Il y a eu beaucoup de plaintes. J'ai parcouru les reviews du jeu, mais les reviews ont été faites avant le temps où moi j'ai joué. C'est un jeu qui est sorti il y a quelques mois. Et beaucoup de reviews, ce qui reprochait au jeu, c'était qu'une fois que quand tu étais mort, tu peux recommencer, mais tu devais encore attendre les 8 heures, les 6 heures d'attente, tout le temps, puis tu savais qu'est-ce qui arrivait. Ils ont ajouté un mode, parce que quand moi je suis mort, ils me l'offraient, c'est le fast mode, où ça enlève tous les temps d'attente. Juste quand tu veux. Fait que tu peux recommencer, les enlever, te rendre jusqu'où tu étais et là, le réactiver puis faire un choix différent.
Comme quand on trichait avec nos livres dont vous êtes les héros, finalement.
Exactement.
Qu'on venait à...
La technique de tenir la page.
Tenir la page.
Exactement, mais juste sur ton deuxième playthrough. Sur ton premier playthrough, jusqu'à quand tu meurs une fois, tu peux pas, tu vis l'histoire à la vitesse qu'elle raconte.
Tu peux pas tenir la page.
C'est ça. Fait que moi, j'ai trouvé ça super intéressant d'être au travail, en train de travailler, puis là, j'ai donné mes formations là, devant les conseillers, puis d'avoir mon téléphone qui vibre. Puis là, pendant que je parle, j'ai sorti mon téléphone puis donner comme répondre à Taylor.
C'est comme le Tamagotchi le plus intense de tous les temps.
C'est le plus intense. Et puis je me suis retrouvé plusieurs fois à être assis chez nous, à rien faire. Puis elle m'a demandé, hey, qu'est-ce qu'il fait Taylor? Il est-tu rendu? Puis j'ai sorti mon téléphone en me demandant, hey, il m'a-tu répondu? Ou est-ce qu'il a finalement fait qu'est-ce que j'ai demandé de faire? T'sais? Fait que je trouve ça intéressant d'avoir ce... Le plus intéressant du jeu, c'était pas jouer au jeu, c'est quand tu joues pas et tu penses au jeu, puis tu penses à ce qu'il est en train de faire, puis est-ce qu'il va réussir, puis tu te demandes qu'est-ce qui va arriver quand il va être rendu. Ou... C'était quand même super intéressant.
C'est un élément intéressant d'une narrative qu'on peut rarement explorer dans n'importe quel média. Ben, les séries télé, un petit peu, je suppose. Sauf que là, t'as la notion de temps réel qui vient rajouter à ça.
Puis là où t'as la notion de chose, c'est toi qui va l'emmener vers son destin. Moi, comme j'ai dit, j'ai fait des choix peu judicieux. J'ai peut-être trop poussé, j'ai peut-être un peu exagéré des fois, ce qui l'a mené à se perdre dans le désert et mourir. Et j'ai choisi de ne pas rejouer. J'ai arrêté là. J'ai failli recommencer, puis je trouvais ça intéressant que le fast mode, j'ai vu comment ça fonctionnait. Je me suis rendu jusqu'au choix que j'avais fait qui l'avait amené jusqu'à sa mort. Puis au lieu de faire l'autre choix différent, j'ai dit non, je vais arrêter. Puis... je vais considérer que c'est mon expérience et c'est l'histoire qui m'est arrivée avec Taylor. Ben, j'ai tué un astronaute cette semaine.
Oh.
Tout ça, selon moi, ben, ça vaut 3 pattes de divan sur 4.
Tuer un astronaute, 3 sur 4.
3 sur 4.
Would kill again.
Mais non, mais vous savez, il risque quand il s'est engagé et il est parti.
Et voilà. Puis qu'il a mis sa vie sur dans les mains d'un formateur.
C'est ça. Sur le Google Play Store, 1,32.
Oh oui, vrai, c'est...
Puis il y a un Lifeline 2.
Qui vient de sortir, en fait, oui, effectivement, par le même développeur. Pas dans le même setting, je pense, de ce que j'ai pu comprendre, mais j'ai pas vraiment beaucoup d'informations.
Ben, aux images que j'ai vues, ça a l'air d'être plus médiéval, mais là, ouais, c'est ça. J'ai cliqué sur l'image, tout ce que j'ai vu. Là.
Médiéval qui texte.
Mais, un excellent jeu, si jamais vous cherchez un passe-temps qui prend pas, qui bouffe pas tout votre temps à jouer là, sur votre téléphone, que vous pouvez juste jouer, ça s'appelle pas 3 Minutes Game pour rien, ben, je vous le recommande.
Hey, aujourd'hui, dans l'univers de Divan Quest, 18 janvier.
Je suis tombé grandi, là, toi.
Écoute, 18 janvier, je commence avec des naissances. 1941. Denise Bombardier. Denise Bombardier, on connaît. La légende dit que quand, au moment de sa naissance, elle aurait regardé le médecin de haut, hein, parce qu'il avait un seul diplôme. J'ai une barre. 1950, Gilles Villeneuve.
Hey.
Quelqu'un de ton coin.
Hey, Berthier, represent!
Un pilote de Formule 1, pour ceux qui ne connaissent pas. La légende dit que sa naissance aurait pris exactement 1 minute 12 secondes 836 millièmes.
Qui est le tour de piste à Monaco, c'est quoi?
Non, qui est le tour de piste record pour le circuit qui porte son nom, à Montréal.
Bien sûr.
1955, Kevin Costner. La légende dit que sa naissance aurait pris 22 minutes, qui est le record mondial de la plus longue période passée sous l'eau sans respirer.
C'est vrai que je m'en allais exactement là.
1961, Marc Messier, le joueur de hockey, pas l'acteur. Le joueur de hockey, la légende dit que sa naissance aurait duré 18 minutes 6 secondes, qui est son temps de glace dans sa dernière partie dans la LNH. Et en 1963... Ouais, il fallait que j'aille avec ça.
Je vous promets, tout le monde, que plus tard dans le pod, il y a de la meilleure musique. Okay?
Mais justement, en 1778, c'est un événement, je sors des naissances, c'est un événement, c'est rare que je fais des événements, mais celui-là est important. Fait qu'en 1778, James Cook a découvert l'archipel d'Hawaï. L'histoire dit que depuis cette époque, il n'a jamais été capable d'enlever de sa tête cette chanson. I have a dream I hope will come true. You're here with me, and I'm here with you. I wish that the earth, sea, the sky up above will send me someone to love. Donc, et pour ceux qui n'auraient pas reconnu, c'était la chanson Lava, là, en fait, qui jouait dans le short Lava, qui était le short qui jouait avant le film Inside Out de Pixar.
Fait que je réitère, pour tous ceux qui s'inquiètent, je vous promets que plus tard dans le pod, il va y avoir de la bonne musique.
Ouais. Puis je m'excuse pour ceux qui les auront dans la tête, ces deux chansons, pendant des années, ce sont des véritables verres d'oreille. Au niveau gaming, ben, rien de très remarquable à mes yeux. Hein. Désolé, si je me trompe, envoyez-moi du hate mail, divanquest@gmail.com. Puis au niveau techno, en 1902, Nikola Tesla a déposé une demande de brevet pour un appareil qui permettrait de transmettre de l'électricité sans fil. Ça va avoir pris 12 ans pour que le brevet soit accordé, puis on attend encore les détails qui soient finalisés, hein, parce que le derrière de mon bureau d'ordinateur attend vraiment cette technologie. 1903, première communication transatlantique dans les deux sens et premier télégramme sans fil entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Le président américain Theodore Roosevelt et le roi Édouard VII se sont écrits à quel point le télégramme sans fil était génial. Là. Ça, c'est véridique, c'est vraiment ce que ça disait, là, mais quelle belle technologie. Par la suite, on aurait intercepté la transmission suivante. « Yo, bro, si tu fais, rien, je chill avec ma chicks », suivi d'une petite image d'un caca qui sourit. La réponse aurait été une petite image d'un ananas. Hein, vive la technologie. En 2012... plusieurs sites, Reddit, Wikipédia, un paquet d'autres dans le fond, ont fermé pour une journée en 18 janvier pour protester contre les législations anti-piratage, le SOPA, le PIPA, qui se rapprochaient beaucoup dans le fond d'une censure de l'Internet.
Du piratage, tu dis? Do what you want, 'cause a pirate is free.
You are a pirate. Imagine. Hein? Tu sais, c'est quand même pas tous les jours qu'on entend quelqu'un à CNN qui parle de boing boing. Hein? C'est sur les ondes de la vraie télé. C'est...
De la vraie,
la vraie télé. Voilà. Blade of Steel.
Vu qu'on a un épisode très jeu cette semaine, tout le monde parle de jeu.
Ben oui.
J'ai décidé d'y aller avec une présentation d'un jeu très coloré pour changer le ton un petit peu. Mais je vais laisser le jeu lui-même nous présenter ses mérites. It's not just good, it's fucking delicious. Oh yeah. Critics said it's fucking good. Moi, je suis un salade de porc qui est quelqu'un qui s'est pas fait de plombier. Other critics said it's motherfucking good.
A street corner prostitute said, I would suck that guy's dick.
Alors, je parle aujourd'hui de House of the Dead Overkill, publié par Sega à l'origine sur la Wii en 2009, ensuite sur PS3 dans une version étendue en 2011. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la série House of the Dead, on parle ici d'un jeu de tir d'arcade, donc joué idéalement avec la manette de la Wii en pointant vers la télé, et sur la PS3 avec la PlayStation Move, également en pointant évidemment vers la télé.
La quoi?
La TV! La TV!
Non, la PlayStation Move 1.
Ouais. Non, et puis le pire, c'est que si vous avez choisi une version, c'est comme un petit peu difficile parce que la version PS3 a plus de contenu, mais le Move lag beaucoup plus dans son tracking que la Wiimote.
Ah ouais.
Ce qui fait que c'est une expérience plus robuste sur la Wii, mais avec plus de contenu et évidemment plus beau sur le PS3.
Sauf que personne a de
Move.
De PlayStation Move.
Ben, j'en ai. Mais en tout cas, je m'en suis servi à peu près deux fois pour des jeux de Lightgun, puis j'ai fait tabarnak, ça lag donc bien. Surtout, en tout cas, parenthèse, là, mais ils ont sorti un Time Crisis juste pour PS3. Lui, il se joue bien parce qu'il est calibré en fonction du fait que le controller lag, mais sur le disque, t'as également. Dead Storm Pirates, qui est un jeu d'arcade de Namco. Oui, c'est ça, exactement. Qui est un jeu d'arcade de Namco. Puis, le jeu est clairement calibré pour une expérience d'arcade très, très rapide. Fait que souvent, t'es là, puis tu drags ton curseur dans l'écran à courir après un fantôme, puis t'es fucking pas capable de le pogner parce que le contrôle lag. Ouais, c'est... Il semblerait que ça se joue mieux avec le Gun Con, qui est le gun officiel de Namco pour ces jeux-là. Bref, un jeu de light gun, un jeu de tir arcade. Évidemment, il fait partie de la série House of the Dead, mais pour ceux qui ne sont pas familiers du tout là, avec ce genre de jeu-là, de la série, en fait, spécifiquement House of the Dead, c'est des jeux qui, surtout les qui ont été apportés ici, ont une traduction vraiment horrible. Les dialogues sont cheesy et mal traduits. Les acteurs sont probablement le concierge de chez Sega. C'est dégueulasse, là. Emotionless, stupide. Mais ils ont toujours un super bon gameplay. Puis quand tu es dans une arcade en plus, tu t'en fous un peu plus.
Ouais, dans l'arcade, t'as tout le feeling d'être.
C'est ça. Puis ça finit par donner un certain charme à ces jeux-là. Mais House of the Dead Overkill a été développé par une boîte occidentale qui a comme décidé de prendre ça puis de run with it. De juste dire, on va faire un House of the Dead, mais on le sait que c'est souvent cheesy puis cheap. Fait qu'on va prendre ce côté-là, comme le petit segment d'intro vous laisse entendre, avec de la musique de style Grindhouse. Puis donc tous les films série Z vraiment cheap, puis on a décidé de prendre ça comme fini pour le jeu, ce qui c'est comme tirer la épingle du jeu finalement, d'être comme bon, on a une franchise qui est reconnue pour être minable, ben faisons de façon très très honnête quelque chose de cheap qu'on peut apprécier.
Fait que ton intro donne vraiment le ton.
Ah, calique que oui là.
Okay.
Puis vous allez avoir amplement le temps de le découvrir parce que c'est des segments audio que je fais aujourd'hui beaucoup, donc vous allez pouvoir entendre un petit peu l'ambiance du jeu. Le jeu est beaucoup moins difficile que les jeux d'arcade parce qu'évidemment, en arcade, ben, c'est des jeux faits pour bouffer des 25 cents. Il est beaucoup moins difficile, mais le focus est beaucoup plus sur faire des combos, donc de ne pas gaspiller de balles en tirant dans le vide, puis de bâtir des high scores, ce qui donne aussi une bonne rejouabilité. Puis il y a des chemins alternatifs dans le jeu qu'une fois qu'on a fini l'histoire, il va nous permettre de rejouer en Director's Cut. Donc, tu vas passer dans des chemins que tu n'avais pas vus avant, qui rajoutent un petit peu au côté cinématographique en même temps. Puis aussi, ben, c'est un jeu qui est beaucoup plus long, parce qu'il n'est pas construit pour l'arcade, qui est toujours l'espèce de 25 minutes qu'il ne faut pas que tu dépasses en arcade, là, dans un shooter en tout cas. Lui, il est beaucoup plus long. Puis ça leur permet d'avoir une beaucoup meilleure narrative, puis de rentrer plus dans les détails. Pour ce qui est de l'histoire du jeu elle-même, ben encore une fois, je vais laisser le jeu parler, puis je vous présente sa situation initiale avant le premier tableau.
What's up, motherfucker?
They met as adversaries.
What the fuck was that for?
A monster made them allies. A secret agent. Immaculate. Intelligent. A rookie. They call him only G. His identity? A mystery.
You ever gonna tell anyone what that fucking G stands for?
No.
A playboy cop. Isaac Washington. Make him mad, and he'll rip your balls off.
I'm gonna rip your motherfucking balls off.
Tonight, these unlikely allies will confront terror most foul in the blood-soaked halls of Papa's Palace of Pain. Be a courteous guest.
By tomorrow morning, I'll have my motherfucking revenge.
Papa Caesar will be dead. If we don't stop this mutant outbreak by tomorrow morning, we'll all be dead.
Because your visit will be your last. Papa's Palace of Pain. Rated X.
Alors voilà.
C'est dégueulasse.
Vous savez tout ce que vous avez à savoir maintenant. Non, histoire merdique, évidemment, mais ils sont très au courant. C'est excessivement vulgaire, si vous n'aviez pas encore une fois remarqué. Gory, puis des films moitié d'une nuit, etc. On est en plein Grindhouse, en plein série Z. Puis comme vous avez sûrement remarqué avec les extraits précédents, ben, le jeu a de la musique très, très funky. Là. Les gros synths, la guitare funky, ce qui est parfait pour le style de film que ça imite, incluant le son qui craque un peu là, dans l'extrait qu'on avait d'avant. Puis toutes les tunes du jeu sont vraiment, vraiment bonnes. Là. Je vais vous en mettre un exemple. Et ça coupait raide,
ça. Quand même, hein?
Je vais vous donner un autre exemple, une de mes préférées.
Oui. On te rappelle que, si je me trompe pas, c'est un jeu des zombies, le même, là, tu sais.
Ouais, exact.
Le feeling
on est
là.
On est dans un carnaval.
Ah, ben oui.
Mais la raison pourquoi c'est une de mes préférées, c'est pas à cause de ce qu'on vient d'entendre, c'est que le jeu offre la possibilité de d'unlocker différents trucs en jouant, puis il offre des versions alternatives de beaucoup des pistes du jeu. Yeah. Alors, je vais vous mettre encore un long extrait, mais de la version chanson de cette piste-là.
Daddy, can I be a mutant?
One day, son, but for now you're too young.
But daddy!
No means no, and stop sniveling, you little shit. By the way, I'm not your daddy.
Huh?
I just kind of fuck your mom. Talking of fucking people, I have a story for you. Sit back and listen, it's quite an amusing one. Well, I took myself to Bayou. I could not believe my eyes. The folks had been mutated, not quite dead, but not alive. Wasn't really looking for love, but they say that's when it strikes. She had that look of being dug up, but that's the type I like. Yeah, free world, man. One man's meat, yada, yada, yada.
Yada, yada, yada.
Sais-tu si c'est comme un artiste tout le même artiste qui fait toutes les tunes?
J'ai malheureusement, j'avais déjà cherché un petit peu là-dessus, j'avais pas trouvé le détail. Faudrait fouiller un petit peu plus. En agenda, mon vieux, j'en parle. Puis je vais vous laisser sur un autre extrait. Mais avant de conclure, il existe une autre version du jeu sur PC, connue sous le nom de Typing of the Dead Overkill.
Ah, c'est dégueulasse.
Yes. C'est exactement le même jeu, sauf que plutôt que de tirer les ennemis, on doit taper des mots pour les blesser. Ça fait écho à, justement, il y avait eu Typing of the Dead sur Dreamcast et sur PC, basé sur House of the Dead 2, qui reste un jeu plus robuste. Là. L'intégration de Typing of the Dead 2 est beaucoup meilleure que celle de Typing of the Dead Overkill, mais c'est une super belle façon d'amener ce jeu-là sur PC. Puis dans Typing of the Dead Overkill, en plus, on peut quand même jouer au jeu de tir, mais avec la souris. On peut pas jouer à deux joueurs, malheureusement, comme les versions console, mais on peut au moins jouer à la souris. Puis, il y a même des DLC. En fait, ça se trouve avec le même contenu que la version PS3, donc c'est la version extended.
Avec tout ce contenu.
Yes. Puis, on peut downloader des packs de mots. Donc, tout du vocabulaire shakespearien. Ouais, tous des trucs comme ça pour les mots qu'on a à taper pour tuer les ennemis. Comment faire du DLC dans un jeu de typing?
Oui, c'est ça.
Mais c'est une super façon pour apprendre aux jeunes enfants à taper sur le clavier d'ordinateur.
En éclatant des zombies, en écrivant « Screw you, you fucking shit ».
Mais c'est le pack shakespearien.
Voilà. Alors, je vous laisse sur Papa's Palace of Pain.
As you well know, Isaac, I enjoy pain. It's like a good Chinese dinner, you know, with the sweet and the sour. Expanding on that analogy, I will smile with delight. That's the sweet. As you scream for your fucking life. Of course, that's the sour. Ciao.
Mad motherfucker.
Shit, the place is wired to blow.
We're not dead yet, detectives.
Et
Réflexion. Sur la semaine. Donc, comme d'habitude, durant les deux semaines qui séparent les enregistrements du podcast, j'épluche les nouvelles du monde techno, du gaming, de l'actualité, à la recherche d'inspiration pour mon segment. Fait qu'en fait, je pensais faire une analyse en trois temps des enjeux psychologiques vécus par les trolls durant leur puberté dans l'univers de Shadowrun, mais comme Danny n'a toujours pas terminé son segment, j'ai dû porter ma réflexion vers un autre sujet, malheureusement.
Ça, c'est drôle!
Donc, en parcourant le net ces derniers jours, j'ai évidemment été surpris, comme l'ont été leurs nombreux fans, d'apprendre le décès de Lemmy Kilminster, David Bowie et tout dernièrement d'Alan Rickman. Apparemment, il y avait trop de talent sur Terre et en 2016, la vie a décidé de rétablir un équilibre.
Et c'est pour ça que nous sommes toujours vivants.
J'essayais de dire quelque chose d'intelligent, Danny.
Yeah!
Donc, incidemment, avec la mort de trois monuments artistiques comme ça et avec la sortie du jeu d'exploration That Dragon Cancer cette semaine, il est difficile de ne pas avoir une pensée pour les gens de notre entourage qui ont combattu ou qui combattent en ce moment ce fléau qu'est le cancer, en fait. C'est une affliction que beaucoup de familles doivent affronter et qui laisse personne indifférent, malheureusement. Évidemment, ici à Divan Quest, notre expertise se situe plutôt dans le domaine des sous-sols miteux, du Mountain Dew et des crottes au fromage. Et par conséquent, le concept de la mort qui nous est donné de côtoyer au quotidien dans les jeux, c'est plus un qui se veut déformer et banaliser. Je me suis donc permis de pousser ma réflexion sur le concept de la mort dans l'industrie du jeu vidéo. C'est un concept qu'on retrouve partout, puis ça depuis les tout premiers balbutiements là, du médium, et comme tout le monde peut se le rappeler dans sa jeunesse, on a tous déjà eu trois vies pour vaincre les obstacles d'un niveau, par exemple. Et chaque échec ou faux pas signifiait la perte d'une vie, finalement. On avait fait une erreur et c'était le prix à payer. Donc, de Missile Command jusqu'à Call of Duty, en passant par Pac-Man ou Mario, la mort est toujours présente d'une façon ou d'une autre, finalement. Cependant, avant de porter un jugement, ou de formuler une opinion sur l'état actuel des choses, il est important de comprendre d'où on vient, pour comprendre où on est aujourd'hui. Donc, les athlètes profitaient des Olympiques grecs, jadis, pour mesurer leur prouesse physique, et les premiers jeux de société, notez les guillemets invisibles pour ceux qui nous écoutent.
On l'entend très bien.
Les premiers jeux de société étaient souvent construits autour du concept de la guerre, comme Go ou comme les échecs, en fait. Donc, dans ces jeux-là, dans ce temps-là, à cette époque-là, le concept de la mort dans le jeu, ça se voulait très, très, très métaphorique. Évidemment, avec la venue de l'ordinateur puis la possibilité d'affronter une intelligence artificielle, le concept de la mort s'est rapidement formalisé. Donc, avec l'avancement des performances graphiques, les animations qui représentent la mort des personnages se sont aussi raffinées. Puis rapidement, la mort, c'est devenu un symbole de l'échec du joueur, ou plutôt de l'incapacité des développeurs à communiquer l'échec d'une façon plus honnête, finalement. C'est un petit peu comme la façon facile de présenter l'échec d'un personnage.
Ben, ça peut quand même être thématiquement pertinent.
Parce qu'en fait, on dénote trois types d'utilisation de la mort, en gros, dans les jeux, qui mènent chacun une expérience différente de la part du joueur. Soit la mort comme un bouton reset, la mort comme inconvenance, et la mort permanente, ou comme on dit dans le milieu, le permadeath. Le modèle bouton reset, c'est probablement un des plus répandus, en fait. Fait que, on pense à des jeux comme Super Meat Boy, où là, on va recommencer à répétition. Puis ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit même le chemin qu'on fait à chacune de nos vies.
De nos tentatives.
C'est ça qu'on va appeler ça pour utiliser le langage finalement du milieu. Mm-hmm. Qu'on pense à God of War, qu'on pense à Call of Duty ou Resident Evil. Échouer, ça signifie juste un petit retour en arrière, que ce soit plutôt dans le niveau ou à notre dernière sauvegarde. C'est un petit peu plus comme un faux départ. Finalement, le directeur crie « Coupé !» On regagne toutes nos positions originales, puis on a perdu quelques secondes de notre journée. Mmh. La mort, ça devient donc un outil d'apprentissage, parce que ça donne aux joueurs une forme de préscience, parce qu'on est maintenant l'emplacement des ennemis et leur pattern. Donc, on va pouvoir se réajuster et ne pas échouer la seconde fois. Il y a d'autres jeux qui vont pousser la note un petit peu plus loin, qui ne vont pas se contenter simplement à renvoyer le joueur en arrière. C'est des jeux où au reset va s'ajouter l'inconvenance à travers la perte d'équipement, d'or, de monnaie dans le jeu ou d'expérience. Aussi connu sous le nom des hosties de jeux de marde.
pour ne pas les nommer.
c'est le cas des jeux comme Dark Souls ou Baldur's Gate ou The Division qui s'en vient dans les prochaines semaines. Ou mourir, ça signifie la perte d'équipement, perte de loot, perte de quelque chose qu'on va devoir retourner chercher plus
tard. En même temps, ça donne des bonnes histoires de moi dans le jeu TKC, pour ceux qui connaissent la quatrième prophétie. Qui court pas de robe, tout nu, pour pas me faire voler ma robe par quelqu'un d'autre, parce que dans ce jeu-là, quand tu mourais puis l'affaire tu droppais, c'était ramassable par les autres personnes.
Mais souvent, c'est une belle façon aussi de départager les jeux qui voient leur expérience comme une narrative, tandis que les autres qui voient la, entre guillemets, là, sans trop s'écarter, mais de la méta-narrative, c'est-à-dire que l'histoire, c'est pas l'histoire dans le jeu, c'est l'histoire de jouer au jeu, comme les MMO font, parce qu'évidemment, tu communiques pour de vrai avec du monde, tu parles de stats constamment. L'histoire, c'est une chose, mais c'est beaucoup plus l'histoire que tu vis, que tu vas compter à d'autres personnes après. Donc, ah, je suis mort, je suis allé rechercher mon stock, le gars, il campait mon cadavre, toutes ces astuces de perception-là. Tandis que quand un jeu te fait juste recommencer sans pénalité, ben c'est comme, ben oublie ça. Oublie ça. On recommence. On coupera pas l'histoire.
Deuxième chance.
Ouais, c'est ça.
Ou 312e.
312e chance selon le jeu.
Meat Boy, justement.
Meat Boy.
Il y a évidemment aussi un troisième groupe qui comprend les jeux dans lesquels la mort est permanente, en fait. Donc, il n'y a pas de reset, pas de respawn, ni de sauvegarde. Quand un personnage meurt dans Fire Emblem, par exemple, ou dans Rogue Legacy, ou dans Diablo 2, si on joue en mode hardcore, on ne peut pas revenir en arrière. Puis ça force les joueurs à faire preuve de plus de stratégie, puis plus d'attention aux détails. C'est probablement l'application du concept de la mort qui est la plus conséquente des trois. C'est aussi souvent l'application du concept qui va repousser plus les joueurs, puis qui va souvent être plus difficile d'accès pour certains joueurs qui vont pas aimer avoir à recommencer à zéro ou à tout perdre.
D'où le fait que dans les derniers Fire Emblem, il y avait un mode classique là, avec la mort permanente, ou le mode où est-ce que si tes personnages meurent pendant le combat, après le combat, ils sont là. T'sais.
Effectivement.
Ce qui est intéressant de ça, par contre, avec la mort permanente, c'est que il n'y a pas de tension véritable dans un jeu si tu recommences pas loin avant. Mm. Surtout la première utilisation traditionnelle, c'est impossible de bâtir de l'attention parce qu'au pire, tu recommences. Puis c'est une qualité dans un certain sens, mais ça te permet de. Ça t'empêche, en fait, d'avoir des moments vraiment dramatiques où est-ce que t'as chaud puis t'as chienne pour ce qui va se passer. Sauf que quand tu joues, exemple, à Uplink, pour rester dans le segment Shadowrun Adam, dans ce jeu de piratage-là, Uplink, quand tu t'es pogné, ta game, elle se fait wiper. Fait que si t'es en train de faire une job de hacking, puis là tu sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de te tracer, ça peut te pogner n'importe quand, tu le sais pas qu'il est peut-être en train de te tracer, puis t'as mal couvert tes traces, puis ta game est finie, puis ça a un poids là, échoué. Fait que quand tu dis, je vais aller faire une banque, je veux vraiment du cash, tu mets tout ça à table.
Mais ça mène un stress,
tu sais. Exact, qui est impossible. Tu peux pas bâtir d'attention sans ça.
Effectivement.
Parce qu'il y a pas de risque.
Faut gagner un prix à payer.
Voilà.
Puis, mais la question se pose, est-ce que c'est possible de faire vivre l'échec aux joueurs sans avoir recours à la mort dans les jeux? On parle régulièrement de la banalisation de la violence dans les jeux vidéo, mais qu'est-ce qu'il y en a de la banalisation de la mort, finalement? Mmh. On vit quotidiennement des échecs dans notre vie, au quotidien, sans que la mort s'en suive. Pourquoi est-ce que les jeux vidéo pourraient pas exprimer l'échec sans sombrer dans l'extrême, eux aussi? Y a des jeux comme Heavy Rain qui explorent l'échec d'une façon un petit peu différente en utilisant les Quick Time Events. Quand on essaie d'ouvrir un coffre, par exemple, et qu'on échoue, qu'on va peut-être avoir brisé la serrure, on ne pourra pas y tourner, ou on va échapper nos clés, puis on va devoir aller les ramasser, mais c'est juste un soit on n'aura pas accès à un certain contenu qui n'ira pas à l'histoire, ou soit ça va être juste un détail dans l'animation ou dans le visuel du jeu. Donc, on voit le personnage réagir à son propre échec à travers la narrative, mais pour le joueur, c'est juste un contretemps qui s'inclut dans l'histoire.
Je pense que c'est justement une espèce de juxtaposition entre les jeux qui doivent avoir des actions plus grandes que nature, dont on est tout le temps en train de tuer du monde, d'être dans des affaires de vie ou de mort, mais que bref, tu vis des aventures énormes sans risque.
Exactement.
Tu recommences, puis tu le fais, puis tu réussis, puis ton bonhomme est un complet badass qui a tué 2500 personnes au travail
exactement.
Du jeu. Tandis que tu as échoué 6000 fois. Tu sais.
Puis ce qui me fait penser à République, en fait, que j'avais parlé pas dans les podcasts, mais au podcast d'avant, là, quelques semaines, où à République, si tu te fais prendre par un garde, le pire qui t'arrive, c'est que tu es escorté jusqu'à la cellule la plus proche et tu dois t'échapper une seconde fois finalement. Puis même dans République, même les armes qui sont accessibles aux personnages sont des armes non létales. Donc tu vas avoir des tasers, tu vas avoir du poivre de Cayenne, puis tu vas même pas causer la mort d'un des gardes en essayant de te sauver.
Mm-hmm.
Donc le jeu est totalement non létal à tous les niveaux finalement.
Mais des fois, en essayant d'éviter de choquer le personnage, le joueur, excusez, en le tuant, il y a eu Prince of Persia, après la trilogie, celui qui portait juste le nom de Prince of Persia, où tu jouais le prince qui escortait une fille.
On en a parlé ça aussi.
Hein. Ouais, exactement. Mais ça, tu crèves jamais. La fille te sauve tout le temps le cul. T'sais. Sauf que ça devient aussi harcelant que de mourir puis de recommencer parce que tu tombes dans le trou, elle te sauve. Si tu te bats en combat, elle te relève.
Parce qu'il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens à mourir finalement dans le jeu. Il n'y a pas la notion.
Il n'y a pas d'échec.
Non, c'est ça. Parce que IRL, Mais la mort, c'est un moment qui est quand même intense puis difficile, puis qui laisse une empreinte indélébile sur ceux qui restent en arrière. C'est pas la perte de quelques secondes de jeu, c'est pas la perte d'un tour ou de quelques points d'expérience. Donc, la mort a sa place dans les jeux vidéo, mais je crois que les développeurs doivent tenter d'explorer le reste du spectre de l'expérience qui est un échec, ou du moins traiter la mort avec un peu plus d'honnêteté et de respect.
Quand même dur de suivre ça. Hein?
Veux-tu que je mette une petite tonne funky? Ou...
c'est correct. Écoute, moi, j'étais jaloux de Jeff, hein, qui passe son temps à parler de jeux qui n'ont pas de jeu. De jeux qui n'ont pas vraiment de gameplay. Fait que je me suis dit que j'allais pousser le concept un peu plus loin et parler d'un livre. Vous savez, c'est choses avec des mots dedans, là, c'est, qui est comme une histoire. Mais...
comme un jeu d'aventure texte?
Oui, mais pas de cliquage.
C'est compliqué comme concept.
Oui, hein, je sais. Mais ouais, dis-toi qu'au moins, je l'ai pas lu sur du papier. Là. C'était sur un écran quand même. Fait que j'étais pas trop perdu.
Zone de confort.
Zone de confort. Donc, je vous parle d'un livre, en fait, d'un livre qui est le début d'une série de livres qui s'appelle Off to be a Wizard. La petite histoire commence l'année passée, vers le mois de juin, où je décide de me pogner un kobo, une liseuse.
C'est-il avec beaucoup trop de dédain pour un objet?
Une liseuse. Pour l'objet, c'est pour le mot.
Okay.
Il y a certains mots français qui me buguent un peu.
Comme un divulgachage.
Comme un divulgachage, comme ça tu scrapes des punches. Donc, je me suis pogné une kobo. Je voulais un reader. Puis j'ai découvert le bonheur qui existe pour les petits geeks comme moi, qui se trouvent à être membres de la Bibliothèque nationale du Québec, mm-hmm. qui a des collections assez gigantesques de livres électroniques que tu peux emprunter, là, bon, avec un timer pour que ça reset et tout ça. Donc, c'est comme si tu empruntais un livre.
Ce qui me fait rire, par contre, c'est qu'il y a un nombre de livres empruntés.
Oui, c'est ça.
Il peut ne pas en avoir en stock à emprunter. Tabarnak.
Bon, ouais, il y a comme des licences
c'est
de livres.
Licence.
Exact. Ouais, il y a un nombre de licences d'acheter et d'emprunter. Puis il y a des expirations. Tout.
Eh ben.
Bref, t'empruntes un livre pour 14 jours, mettons. Ben, après 14 jours, il s'efface de ton système.
Après deux jours.
Tu le fais web ou faut que tu ailles l'emprunter, la bibliothèque?
Ben web.
Tu le fais web.
C'est un peu loin de chez nous, la Bibliothèque nationale.
Puis après ça, là, tu te rends compte que t'as pas fini de le lire puis ça fait presque 14 jours. Fait que tu le pirates.
Voilà. Genre... c'est ça. Hein? C'est...
hey, on est de retour!
Donc, ouais, j'ai découvert qu'on a un paquet de livres comme ça qu'on peut emprunter. Puis là, j'ai lu un des premiers que j'ai emprunté comme ça, où je sais que je suis en retard encore une fois, Ready Player One, que j'ai lu comme en juin dernier. Mm-hmm. Un des meilleurs livres que j'ai pu lire dans ma vie, je pense, là, de Ernest Cline, pour ceux qui connaissent pas. Bref, je l'ai bouffé en deux jours. Puis là, j'ai fait comme... il semble que c'était le fun, cet univers-là, de où est-ce qu'on pouvait comme... mélanger un peu l'univers semi-récent, semi-futur, semi-proche, un peu de science-fiction, des références geeks de notre époque. Donc, j'ai décidé d'essayer de voir. Il y a tout d'autres livres qui pourraient m'amener ce côté-là. Je ne m'attendais pas à avoir quelque chose d'aussi poussé en termes de références que dans Ready Player One, là, parce que c'est un peu dur de dépasser le nombre de références par paragraphe qu'il y avait dans ce livre-là. Mais c'est un peu là-dessus que j'ai fouillé. Fait que je suis allé me ramasser un peu sur Goodreads, des choses comme ça. Puis, il y a un titre qui a attiré mon attention. Off to be a Wizard. Le titre attire l'attention. Là, tu regardes la pochette, puis ça attire encore plus l'attention. Parce que la pochette, t'es comme en dessin 8-bit. Hmm. Fait que là, tu fais comme, ah, gadon, le gars qui aime pas pantoute le rétro ici.
Ce qui me fait penser, il y a une maison d'édition Penguin, si je me trompe pas, qui publie des classiques de la littérature avec des couvertures 8-bit pour essayer d'attirer l'attention des jeunes.
Ils disent pas de pas juger un livre par sa couverture?
Ouais, mais on le fait tout. Voilà. Fait que si tu veux attirer l'attention d'un jeune à lire, genre Treasure Island... ou l'Odyssée.
On les a pas vus chez Drowning Quarterly. Ça se peut-tu qu'on les ait vus?
Ah, c'est possible. C'est possible.
Ça me dit quelque chose. Bref, oui. Ben que le titre a attiré mon attention. La couverture a attiré mon attention parce qu'il y avait un genre de petit wizard. Mais tu sais, dans le fond, que tu vois que c'est un dude qui était bien en linge, bien normal, avec un petit chapeau de magicien très, très cliché. C'est, ah, gadon, petit marketing ciblé ici. Fait que j'ai décidé de l'essayer. Je parle un peu de l'auteur, après ça j'embarque dans le livre là. L'auteur c'est Scott Mayer, il fait un paquet de trucs sur le web, entre autres un webcomic qui s'appelle Basic Instructions que je connaissais pas, qui est une série de how-tos assez humoristiques. J'en ai lu quelques-unes là, pour juste me donner un peu un feeling de la chose, puis pour vrai je vais toutes les lire parce que c'est des webcomics vraiment intéressants qui donnent une idée un peu de l'humour du dude. C'est des webcomics de 4 cases, mais tu sais, comparativement à souvent des webcomics où est-ce que t'as comme 2-3 cases qui setup et un punch à la fin, lui, souvent dans chaque case, il y a un setup puis un punch. Fait que c'est quand même drôle. Puis fréquemment, tu lis, puis le dernier punch te fait rire comme de façon audible, là, qui est quand même rare quand tu lis un comic sur Internet. T'sais? Fait que pour vrai, ça me rejoint son humour. Juste deux, trois exemples des titres de certains de ses BD. Il y a le premier qu'on retrouve sur le site, là, je pense que c'est pas le premier qu'il a écrit parce qu'il était ailleurs avant ça. Il y a « How to avenge your brother's murder ». Puis c'est vraiment un petit « How to » qui est quand même assez drôle, là, qui finit à coup de 2x4. Puis le dernier là, qui est sorti récemment, c'est « How to keep your Christmas gift secret ». C'est assez amusant aussi. Là. Donc, il y en a un paquet d'autres qui sont assez drôles. Il a fait plein de trucs. Là. Puis il a écrit des livres. Là. J'ai pas tout regardé ce qu'il avait écrit, mais il y a cette série-là qui a commencé, qui est devenue, là, après qu'il en ait écrit 2-3, la série « Magic 2.0 ». Puis c'est dans cette série-là qu'on retrouve Off to be a Wizard, qui est le premier. Donc, c'est le premier de 3 livres publiés. Puis là, il semblerait qu'il y en a un quatrième qui sont en cours d'écriture présentement. Donc, Off to be a Wizard. Je vais essayer de pas trop faire de divulgateurs, de spoilers. Ce que je vais dire majoritairement, là, ça se passe dans le premier, comme 3 peut-être chapitres. Là, j'ai pas compté parce que ça fait un bout de temps que je l'ai lu. Mais dans les premiers chapitres, fait que c'est pas des gros spoilers de l'histoire comme telle. C'était des spoilers un peu du setting, mais ça aide à comprendre un peu où est-ce que ça s'en va. Puis un peu aussi le style très très humoristique de ce livre-là. Là. Autant que j'ai trippé sur l'histoire, mettons, de Ready Player One, il y a pas ce même humour-là dedans. Puis dans Off to Be a Wizard, c'est de l'humour un peu. Tu sais, il y a un petit côté. Je dirais pas noir. En tout cas, j'arriverai pas à vraiment qualifier l'humour, mais c'est drôle. Là. Tu lis le livre et tu as un petit sourire en coin tout le long, ce qui est agréable. Donc, quelques petits spoilers, mais qui sont pas trop longtemps, qui sont pas trop loin puis qui sont pas importants là, pour l'histoire comme telle. Donc, Off to Be a Wizard, c'est l'histoire d'un gars, un gars qui s'appelle Martin. Un doute bien ordinaire, il s'amuse souvent à explorer les systèmes informatiques.
Pas trop de quoi de mieux pour ces guillemets-là.
dans le fond, il explore un peu les systèmes informatiques dans lesquels il ne devrait pas se retrouver. T'sais, il fait un peu du hacking, mais sans vraiment rien briser. Il fait juste se promener. Il se promène, il s'amuse à rentrer dans les systèmes. Il ne change rien. Il regarde un peu qu'est-ce qu'il trouve. Puis, à un moment donné, il se retrouve sur un site là, qui faisait des systèmes de sécurité, je ne sais plus trop quoi. Puis, il trouve un fichier qui s'appelle repository-1.txt. Qui attire un peu son attention parce que c'est un fichier texte de 5 terabytes. qui fait comme, hein, c'est bien gros.
C'est tout de la fanfiction, de la fanfic d'Harry Potter.
Ouais, c'est ça. Juste ça.
Avec Ron et Harry qui se touchent.
Juste des fanfictions de Snape. Hein,
de Snape.
Voilà, pour Alan Rickman. Dans mon livre, il n'y avait pas de fanfiction d'Harry Potter avec des balais. Pis...
Disappointed!
Disappointed! Donc, il trouve ce fichier-là de 5 terabytes, puis je pense que n'importe qui serait curieux d'ouvrir ça, un fichier de texte de fucking 5 tera. Fait qu'il l'ouvre, hein, puis dans le fond, on voit un peu déjà à ce moment-là le style du monde de l'auteur. Là. Il explique que ben Martin, à chaque fois qu'il va sur un site, ben il regarde s'il y a des informations sur lui. Hein, pis, il cherche. Fait que là, ben, c'est ce qu'il fait, il rouvre le fichier texte, puis il se rend compte en regardant que sa grandeur est pas bonne. Mais pas que c'est pas la vraie grandeur, c'est pas sa vraie grandeur, mais justement, c'est que c'est sa vraie grandeur. Puis dans tous les formulaires qu'il remplit, il met vraiment jamais sa vraie grandeur, il met tout comme 2 pouces de plus, tu sais. Donc il décide de la changer. Puis là, c'est là qu'il se rend compte qu'en seulement pour aller chercher quelque chose, il se cogne partout, parce que sa vraie grandeur, dans la réalité, a augmenté de 2 pouces. C'est un peu le setup. Là.
Il a trouvé le fichier web pour les config de la réalité.
Et c'était à peu près ça.
Sa réalité.
De la réalité.
De la réalité.
Ben, 5 terras, c'est tout. Fait que ça semblerait que la réalité rentre dans 5 terras.
Voilà.
En fichier texte.
Une grande question philosophique vient d'être réglée ici même, réglé. En exclusivité à Divan Quest.
C'est une belle occasion manquée. Je me serais attendu à 42 terras.
Quand même, ça aurait été bon. Ça aurait été bon.
Voilà.
Il y aurait peut-être des problèmes de droit, quelque chose.
Non, c'est ça.
Hey, rendu là. Vous trouvez ce fichier-là? Vous autres faites quoi, les gars? Pour le fun, après ça, je continue.
Bah, je change la gravité, premièrement.
Fuck tout.
Mon Dieu, que je gagne le Powerball.
Bank account, clic-clic, et voilà.
Ben, gagner le Powerball, ça aurait été une pas pire idée, je te dirais. Fait qu'il se met à faire des tests, hein. Martin se met à changer les choses. Il change ses coordonnées GPS. Puis là, il se retrouve, genre, en pantoufle dans un parking au bout de la ville. Fait qu'il s'amuse à revenir de l'autre bout de la ville.
parce qu'il n'y a plus d'ordi.
Parce que l'ordi est resté là-bas, tu sais. Fait que là, ben, il s'organise pour pouvoir avoir accès au fichier avec son téléphone. Puis là, il se met à gosser dans le fichier pour s'organiser pour que son téléphone ait toujours de la pile. Fait que sa pile est toujours à genre 72%.
Pas trop
parce
louche.
Qu'à 100%, ça serait louche. Fait qu'elle est toujours à 72%, tu sais. Il s'arrange aussi pour que son téléphone soit toujours connecté sur Internet. Puis là, c'est comme souvent dans ce livre-là, c'est pas plus expliqué que ça. Tu sais, ça laisse un petit côté de bon, il le fait, hein. Puis pas besoin d'expliquer plus que ça, c'est pas plus grave. en l'expliquant pas trop, on se pose pas trop de questions, tu sais. Fait que ça donne un petit côté le fun, puis ça fait aussi que le reste du livre peut se passer, là, parce que à un moment donné, vous allez voir que s'il n'y avait pas ces éléments-là de « OK, ça marche, l'histoire, il faut errer assez vite. » Fait que là, il change l'heure dans le fichier, puis en fait, il se rend compte justement que il y a un gars qui fait des babayes, puis que c'est lui-même de 20 secondes plus tard qui a changé l'heure dans le fichier, tu sais. Puis il se rend compte qu'avec ce fichier-là, tu peux aussi voyager dans le temps. Mais seulement vers le passé, jamais vers le futur, parce que le futur n'est pas encore écrit. Fait que là, ben, il se dit, je peux peut-être changer le solde de mon compte de banque.
Sure.
Fait qu'il se met une couple de pièces de plus, puis ah, tiens, j'ai une couple de pièces de plus, tu sais. Fait qu'il décide au début de rester comme low profile. Je veux pas comme causer de la chenoute. Il continue d'aller travailler, il continue de faire ses affaires, mais là, m'en est, son frigidaire pète, change son frigidaire, ah, rajoute un peu d'argent dans le compte de banque. Ouais, mes meubles sont un peu plates, je pourrais acheter du beau stock, fait que mets un petit peu d'argent dans le compte de banque, s'acheter du beau stock sur Ikea. Ouais, mon char, il est plate. Fait que, tu sais.
Mais il pourrait pas juste s'écrire un nouveau char, s'écrire un nouveau frigidaire, puis s'écrire des nouveaux meubles.
Il n'y a pas de variable, genre char de Martin.
C'est une bien bonne question.
Audi, genre, tu sais.
Mais ça, vous êtes trop programmeur pour le livre. Moi, je n'ai pas pensé à ça.
Et Martin non plus.
Et Martin non plus. Hein. Capable de hacker des systèmes hyper sécurs, mais pas capable de penser
fucking
à ça.
Fucking Martin.
Ouais, Martin.
Qu'est-ce qui arrive s'il fait une boucle infinie dans un process niaiseux?
Crash l'humanité. Bon. Fait qu'il pense rester low profile au début, tu sais, mais finalement, il se met à arracher de l'argent dans son compte de banque. Fait que ça, en se disant, oh, mais je fraude personne, je l'enlève à personne cet argent-là, je la crée, tu sais, comme ça.
Je la matérialise.
Je la matérialise out of thin air. Ben, en fait, out of thin bytes, en tout cas.
Thin code.
Thin code. Puis, ben, il attire l'attention hein, sur lui, c'est certain. Fait qu'il se fait pourchasser là, par les autorités qui pensent que c'est un fraudeur. Il réussit à s'échapper là, après s'être fait arrêter en prenant son téléphone parce que. Comme tout bon programmeur, il s'était codé une application pour avoir accès à ce fichier-là n'importe où. Puis il s'était codé une couple de boutons panique là, qui le permettait de se téléporter à un endroit safe et tout ça. Bref, il se sauve, puis il s'était vraiment codé un bouton genre alerte, faut que je décrisse, qui l'amenait à l'époque médiévale. En disant, ben si j'aime sauver des autorités, je vais me rendre dans le passé à une époque où. Ben, je pourrais me faire passer pour un magicien, hein, parce qu'avec ce fichier-là, ben, je peux avoir un accès sur la réalité, donc pouvoir faire des choses qui sembleraient être la magie. Puis c'est un peu ça comme qui est le début de l'histoire. T'sais. Fait qu'il se retrouve à l'époque médiévale.
Tout ça, c'est le début de l'histoire.
Ouais. C'est une bonne partie du livre quand même, mais c'est vraiment intéressant. C'est peut-être un des bouts le plus fun de cette histoire-là, pour vrai, tout le setup et les niaiseries qu'il fait. Puis c'est un personnage qui est tellement.
Fait que le reste du livre, il est suite, c'est pas bon, c'est ça?
Ben, pas que c'est pas bon, mais. Je dirais que le rythme est différent, là. Mais j'ai comme vraiment aimé, puis j'en reparle un peu après les suites aussi. Donc, il se ramasse à l'époque médiévale, puis là, il veut se faire passer pour un magicien, tu sais, c'est certain. Fait qu'il commence par faire apparaître du tissu transparent, qui est genre un sac de plastique. Puis là, comme quelqu'un qui disait, hey, c'est cool, mais tu peux t'en faire apparaître plus. Shit. Dans le fond, quand il s'était sauvé de chez eux, il est allé se cacher dans sa chambre chez ses parents quand il était jeune. T'sais. Fait que là, il repop dans la chambre chez ses parents, descend dans la cuisine, vole le rouleau de saran wrap, cache dans sa manche de son costume d'Halloween d'Harry Potter, genre pour avoir une robe magicien.
Fait qu'il trouve encore moyen de retourner dans le présent, mais il reste au Moyen-Âge.
Oui, mais dans le fond, quand il revient dans le présent, c'est comme quelques secondes après qu'il soit parti. T'sais, il revient genre quelques secondes après. Fait qu'il.
Ok.
Time traveling. Fait que tu sais, il fait apparaître le saran wrap de ses manches en disant ouais, magie, tu sais. Puis bon, tu sais, il veut aussi m'emmener faire à croire qu'il s'est volé, mais il a comme pas encore tout compris. Fait que sa méthode de voler, c'est de se téléporter à même hauteur aux fractions de secondes. Fait que c'est comme s'il vibre, puis il paraît que c'est hyper inconfortable.
Ben, côté programmation, ça marche.
Ah ouais, c'est ça. Mais justement, tu sais, il y a des raccourcis comme ça qui sont intéressants pour quelqu'un qui fait un peu de programmation. Le reste du livre, après ça, va raconter des aventures qu'il va vivre à cette époque-là. Puis je veux pas rentrer dans ce qui se passe là, parce qu'il y a quand même des punchs intéressants là, qui se passent vraiment là, puis des petits plot twists là, qui valent la peine d'être lus. Mais pour vrai, un petit côté bien le fun à ce niveau-là. J'ai comme sorti une couple de quotes là, qui montrent le côté humoristique. L'humour un peu, puis là, ben, je vais essayer de pas trop m'enfâcher dans mon anglais. Une des quotes. « He had spent a lot of time thinking about himself and had come to the conclusion that he was definitively not self-absorbed. » quelqu'un qui dit un personnage, en est, il dit « You know, the less you talk, the more people assume that what you're not saying is important.
»
Oui.
C'est des paroles très sages.
Très sages.
C'est pour ça que tout le monde le sait que je suis pas hyper pertinent.
Ah! parlant de nourriture à un moment donné, he had many other food choices he could produce, but a selection of specialized burritos is all the variety most men need. He knew that the thing the file allowed him to do would seem like magic to anyone who witnessed them. If he was going to escape to a point in the past, it should be a time when magic was believed to exist. That way, instead of people yelling, "Magic! It must be some kind of trick! Let's beat him until he tells us the secret!" Hopefully, they would yell, "Magic! I've heard of that! I've never seen it in person, though." The trick was finding a time and place where the next sentence wouldn't be, "Let's burn him!"
Fait que finalement, il s'est téléporté au Wisconsin.
Au Wisconsin. Non, vraiment pas. Il serait brûlé comme à notre époque. Donc, pour elle, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Le côté humour est vraiment intéressant. Je l'ai lu en très, très peu de temps. C'était rapide. petit côté d'apprentissage de ses pouvoirs au début, là, qui était assez le fun aussi. Là. Moi, j'aime ça dans les livres, les gens qui apprennent à utiliser leurs pouvoirs ou qui sont en genre de training. Là, dans Ender, des histoires de même, là, c'est les bouts que j'aime le plus souvent de ces livres-là.
C'est bien de dire livre, parce que le film d'Ender, ça passe...
J'ai pas vu, puis je suis pas sûr que ça me tente.
Non, c'est beau.
C'est correct.
Danny, c'est un fan qui aime ça lire des training montages.
Ouais, c'est ça. les autres personnages aussi du livre sont vraiment intéressants. Il y a des trucs vraiment le fun. Il y a des trucs qu'on va pas venir là, sur des personnages que tu vois pendant une grosse partie de l'histoire, puis d'un coup, ah, OK, j'avais pas pensé que ça pouvait arriver, cette histoire-là. Ils sont vraiment le fun, là, surtout pour des gens qui sont un peu geeks comme nous le sommes. Puis l'auteur connaît son public. Là. Les références à la culture geek de plusieurs époques sont là, sont comme véridiques. Tu les reconnais, tu les comprends. C'est assez intéressant. Puis le personnage principal, je l'ai un peu dit tantôt, là, il est un peu tata, il est un peu naïf. C'est pas qu'il est épais, il est quand même intelligent, mais en même temps un peu innocent. Là, il dit, ben, si je suis pas de la fraude, je me ferais pas arrêter, comme si quelqu'un se rendrait pas compte que son compte de banque arrête pas de monter. Fait que c'est un petit côté naïf, puis souvent on le retrouve tout au long de l'histoire, puis... Même dans les suites, c'est encore là, même si le personnage se développe un peu. Donc, ça le rend comme attachant. Mais en même temps, tu ris un peu de lui parce que, comme voyons, personne ne ferait ça réellement. Tu sais, ça fonctionne avec le setup du personnage. Donc, il y a peut-être un peu de longueur dans certains bouts de l'histoire, là, après qu'il soit allé dans le passé, avant là, que, mettons, l'histoire déboule vraiment. Il y a peut-être un petit peu de longueur, mais je l'ai lu tellement vite que je m'en suis pas rendu compte. C'est souvent des critiques qu'on voit là, quand on fouille un peu. Sauf qu'à la vitesse que j'ai lu, ça a fait comme... Ah, OK, là, ça recommence à être le fun, tu sais. Il y a peut-être des petites longueurs dans le milieu du livre, mais pour vrai, là, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Une bonne lecture pour quelqu'un qui aime des livres qui sont humoristiques, de fantasy, parce que la magie, science-fiction, bref, ouais. Mm-hmm. Je recommande, vraiment, là, je recommande. Il y a eu des suites. Il y a Spell of High Water, là, qui est le deuxième livre. Correct, je vous dirais, là, que c'est peut-être le plus faible des trois. On découvre l'Atlantide, puis bon... Okay. Les aventures.
Est-ce qu'ils sont également disponibles sur la BINQ?
Probablement. Bonne question.
Okay.
Bonne question. Je me demande si je les ai réellement trouvés là, ceux-là. ouais.
Voilà.
Fait que je suis pas certain, là, ça serait à vérifier. Donc le deuxième, peut-être un peu le plus faible de la série. Le troisième, qui s'appelle An Unwelcome Quest. Meilleur que le deuxième, peut-être un peu moins bon que le premier, mais il est vraiment intéressant, qui est assez différent. Là, ils se ramassent dans un nouveau setting où est-ce que là, leur pouvoir ne fonctionne pas pendant un certain temps, puis qui est un peu comme un jeu d'ordinateur, avec plein de petites références clichés à des jeux, puis des jeux pas nécessairement très récents, là, étant donné l'histoire du jeu. Puis il y a une petite référence aussi à une des manettes peut-être les plus cool qui existe, la Nintendo Wavebird. À voir. Donc le troisième livre, vraiment, il est intéressant, il est le fun. Fait que ça vaut la peine, là, comme pour ceux qui ont beaucoup aimé le premier, de passer le deuxième qui se lit, là, qui est intéressant, tu sais, qui est moins. Tu sais, moins drôle.
Je pense que t'as donné tes critiques. Hein. Qui est bon, mais.
Bref, ça vaut la peine de le lire pour arriver au troisième qui est vraiment le fun.
All right.
Ça vaut la peine de le lire, ben comme j'ai dit, là. Oui, vraiment, moi, c'est des livres que j'ai beaucoup aimé. Je donne 3 pattes de divan à ce premier livre-là de la série. Puis maintenant que je sais qu'un quatrième s'en vient, je dirais que j'ai assez hâte à son arrivée.
3 pas de divan plus un...
C'est ça, but. Good show!
Mon Dieu.
Je savais pas qu'il y avait une transition en fait, good show.
Donc, pour du feedback, pour du hate mail, finalement, au divanquest.com, vous allez faire un tour. Quoique, je pense pas qu'il y a le lien vers le courriel ou quelque chose. Mais...
Ouais, si vous avez du hate mail, allez sur divanquest.com. Il n'y a pas pour écrire rien.
Il n'y a rien, mais c'est pas grave. Hein. Vous pouvez y aller. Puis être pas content devant votre ordi.
Et voilà.
Sinon, sur Twitter, twitter.com/divanquest. Sur Facebook, facebook.com/divanquest. Ou par courriel au divanquest@gmail.com. Notre podcast est disponible avec un paquet d'autres podcasts québécois au. rzoweb.com. Vous pouvez aussi le pogner de temps en temps dans la playlist de Pod Québec au podquebec.com, là, qui est un genre de chaîne radio en continu finalement qui diffuse des podcasts québécois. Donc on est aussi là-dedans. Sur iTunes, vous pouvez aller commenter, cliquer les petites étoiles. Hein. Qui sera le premier? Il n'y en a toujours pas.
Moi j'espère que dans le fond, on n'a pas beaucoup de monde qui ont des iPhones. C'est tout.
C'est peut-être juste ça finalement.
Pas beaucoup d'auditeurs avec des iPhones.
Moi, je suis obligé de downloader iTunes mon ordi pour aller voir, parce que j'en ai pas.
C'est ça. On va aller voir si quelqu'un laisse une review dans nos iTunes. Hey, c'est long, hein?
Et sur ce, on se revoit dans 2 semaines.